L'âge bête sur RCN.
Bienvenue sur RCN Radio, nous enregistrons depuis le lycée Marquette, nous sommes le mercredi 14, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et nous nous retrouvons sur l'âge bête. Bonjour tout le monde.
Salut.
Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs chroniques par Tess.
Je vais vous raconter plusieurs petites histoires.
D'accord.
Super.
Et toi, Margot?
Moi, à la fin, je raconterai les plats un peu dans les films.
Ça me parle un petit peu plus, c'est tout. Et toi, Antonin?
Avec un quiz, mais normal, pas comme la dernière fois.
Super. un peu plus chill. D'accord. Bah, nous commençons tout de suite et nous resterons ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc je vais d'abord commencer donc par une première petite histoire. Donc c'est l'histoire d'un vol qui date de 1911.
Vol d'avion ou vol
non,
de...
Non, un vol de... Vol, on a volé quelque chose, okay. Ouais.
Super.
Donc on est à Paris le 21 août 1911 à 7h du matin. Le Louvre est silencieux, endormi.
Oh, à Paris.
Ouais, à Paris. Un lundi, comme les autres, fermé au public, le musée, donc il y a vraiment juste que les agents d'entretien, quoi.
Okay.
Donc personne ne prête attention, du coup, à l'homme qui est vêtu d'une blouse blanche et qui sort lentement d'un placard à balai au premier étage. Il s'appelle Vincenzo Perugia, il a 30 ans, il est italien.
Se planque dans les placards à balai.
Ouais, il se planque dans les placards à balai.
Génial.
Il est petit, trapu, invisible. C'est un ancien vitrier ayant travaillé au musée. Il connaît les couloirs, les recoins, les horaires et les failles du musée. Il marche avec assurance, comme s'il faisait partie du personnel. Personne ne le questionne. Il rentre dans la salle des états, là où repose la Joconde, accrochée à un mur, sans protection particulière, pas encore la superstar qu'elle est aujourd'hui. C'est juste un tableau célèbre parmi d'autres. Il regarde autour, il n'y a personne. Il décroche le cadre d'un geste fluide, il le pose à même le sol, retire doucement la vitre et le dos du cadre. D'un geste rapide, il glisse le tableau sous son manteau, referme sa blouse par-dessus et sort, balançant le cadre dans l'escalier.
Comment il peut réussir à mettre le... Bah, il l'a enroulé.
Mais non, en fait, déjà, le tableau n'est pas si grand que ça. Et oui, du coup, je pense qu'il a dû le... Bah non, en fait, non.
Il l'a retiré du cadre.
Ouais, il l'a retiré du cadre. Donc en fait, une fois que tu n'as plus le cadre, c'est pas si grand que ça.
C'est une toile, tu peux enrouler.
Non, il l'a pas abîmé. Donc juste, il sort de là, quoi, et voilà, sans être vu, personne
le
voit.
Le petit vol chill.
Ouais,
quoi.
C'est ça, petit vol chill. Et du coup, bah, le lendemain, il y a un artiste qui est venu peindre la Joconde pour s'exercer, et il trouve le cadre vide, donc il se questionne, et un des agents lui répond qu'elle est sûrement en train d'être restaurée. Mais en réalité, personne sait où elle est, parce que personne l'a déplacée, donc l'alerte, elle est donnée, la police, elle arrive, le Louvre, il est bouclé, les journaux, ils s'emparent de l'histoire, la Joconde a disparu.
C'était quand, ça? En quelle année?
En 1911.
Ok.
Donc ça date un peu, c'est pour ça que ça n'a pas fait autant de bruit que ça aurait fait maintenant, quoi.
Ouais.
Donc les rumeurs, elles explosent. Les gens, ils se demandent si c'était un coup d'État, une vengeance, un réseau international de voleurs d'art. On accuse même des artistes comme Picasso ou Apollinaire.
Ah
mais
ouais.
Rien. Rien, on trouve rien du tout. Et pendant ce temps, dans un petit appartement parisien, il y a Perugia qui vit une double vie. Le tableau, il est caché dans un des faux fonds de sa malle. Il le sort parfois, il le regarde. Et il croit sincèrement qu'il est en train de sauver un trésor italien volé par la France. En fait, il ignore que Léonard de Vinci l'a offert au roi de France lui-même.
Ah oui.
Donc pendant 2 ans, la Joconde, elle dort dans une malle pendant que le monde entier la cherche. Donc on est en décembre 1913 à Florence. Un marchand d'art, il reçoit une lettre étrange. Un certain Leonardo Vincenzo qui dit posséder la véritable Joconde et souhaite la restituer à l'Italie. Le marchand, il accepte un rendez-vous. L'homme arrive avec une mallette, il l'ouvre. Le marchand blêmit. Le tableau, il est identique, authentique. La police, elle est immédiatement prévenue. Et Perugia, il est arrêté sur le champ. Donc il ne va pas résister, il va parler, il va beaucoup parler et il va dire des propos tels que « Je voulais la rendre à l'Italie, elle nous appartient, c'était mon devoir », etc.
Ouais.
Le procès, il fait grand bruit et lui, il ne va passer que 7 mois en prison. Il est reconnu comme un idéaliste un peu fou, mais pas un criminel.
En vrai, je comprends le titre.
Donc la Joconde, elle retourne au Louvre, escortée comme une reine. Donc maintenant, c'est devenu vraiment une superstar. Parce que du coup, le monde, on va dire, a entendu un peu son nom, cette affaire, le mystère, etc.
Donc c'est un peu grâce à ça que la Joconde est si connue aujourd'hui, en réalité.
Ouais. Et du coup, lui, il va retourner à l'anonymat. Donc, il continue sa vie... il est mort maintenant. Il a continué sa vie tranquillement. Et voilà. Mais après, c'est parce qu'en fait, il l'a fait sans armes ni aucune violence. Donc, finalement, il a pas... il a volé, quoi, mais...
Oui.
Voilà.
Ouais, il a volé le Louvre, mais t'inquiète.
Ça va.
Génial, j'adore.
Voilà. Du coup, je vais vous parler d'une deuxième petite histoire. Donc on est en Australie le lundi 29 août 2016.
On change de pays.
Voilà, c'est on change complètement de pays.
2016
En 2016, ouais.
Okay,
on change aussi d'époque.
Un peu.
Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est une histoire qui n'est pas résolue, je vous le dis déjà, parce qu'en fait, on ne sait pas, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
Ah, j'adore.
Donc la journée, elle commence comme toutes les autres, dans la petite ferme des Trompes, en périphérie de Melbourne. La famille, elle est soudée. Donc il y a Marc Trompe, 51 ans, cultivateur de baies, Jacoba, sa femme, et leurs trois enfants adultes, Rihanna, Mitchell et Ella. Mais le matin là, il y a quelque chose qui cloche. Sans prévenir, Marc, il déclare qu'ils doivent partir, tout de suite. Il dit qu'ils sont en danger et il refuse de dire pourquoi. Donc pas de valise, pas de téléphone, pas de carte bancaire, pas d'itinéraire, juste une consigne, on part maintenant.
Étrange.
Du coup, ils fuient vraiment vers nulle part. Ils montent tous dans la voiture familiale, direction vers le nord, quoi.
Et ils posent pas de questions ni rien, c'est
non,
juste
bah en fait, ils écoutent juste le père, quoi, et ils partent.
Ok, ok.
Donc, personne ne comprend, leurs affaires, leur maison, tout est laissé en plan, même les téléphones sont jetés par la fenêtre en route. Sauf que très vite, le fils, Mitchell, il doute. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Deux jours plus tard, il quitte la voiture et il rentre à la maison seul, en train. Pendant ce temps, les autres continuent. Ils roulent à travers l'état de Nouvelle-Galles du Sud, fuyant une menace invisible. Selon certains témoignages, la famille semblait paranoïaque, méfiante, persuadée d'être suivie. Ils s'arrêtent brièvement à Jenolan Caves. Là, Rihanna et Ella, elles quittent la voiture à leur tour. Donc, il n'y a plus que les deux parents.
Ok. Les enfants, ils ont sorti
ouais.
quand même.
Donc là, les deux filles, du coup, elles volent une voiture pour rentrer. C'est un comportement qui est vraiment très inhabituel parce que du coup, c'est vraiment deux jeunes femmes sans casier judiciaire. Enfin,
oui,
si elles
ne
s'étaient pas senties en danger, elles n'auraient pas volé une voiture, quoi. Voilà, donc pendant ce temps, les parents, ils poursuivent la route. Jacoba, la mère, elle est retrouvée seule, désorientée et rentre dans une rue. Elle ne sait pas où elle est hospitalisée en état de détresse mentale. Marc, le père, il continue seul, il est introuvable.
Ah.
Ouais, il continue tout seul sa route,
ah ouais,
il fait
okay.
sa vie, quoi. Il est introuvable pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un agriculteur le reconnaisse caché dans son champ à plus de 600 km de chez lui. Donc il est couvert de boue, désorienté, méfiant, il refuse de dire ce qu'il fuyait. Donc, une fois la famille réunie et saine et sauve, la police enquête. Pas de secte, pas de menace réelle, pas de dette, aucune cause extérieure en fait. Donc, on ne sait pas. La seule explication avancée est celle d'un épisode de psychose collective, un phénomène rare mais documenté où un ou plusieurs individus entraînent un groupe entier dans une croyance délirante. Donc, le stress, l'isolement et peut-être des antécédents médicaux auraient joué un rôle, mais en fait, on ne sait pas. Et du coup, donc la famille, elle parlera jamais clairement de ce qui s'est passé. Marc, il affirmera que des éléments extérieurs ont fait pression sur son esprit. La mère, elle se souvient absolument de rien. Et leur fils, il dira simplement que quelque chose s'est brisé ce jour-là. Et depuis, ils sont tous retournés à leur vie normale. Mais du coup, il y a une question qui reste en suspens, puisque ça n'a toujours pas résolu. On se demande du coup, et s'ils avaient raison? Et s'ils fuyaient du coup quelque chose que nous, on ne peut pas voir? Donc en fait, on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qui
s'est passé. En fait, ça se passerait juste dans sa tête, quoi.
Ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Attends, le père a été retrouvé dans un champ,
ouais.
Mais la mère aussi.
Non, la mère, elle a été retrouvée au bord de la route, totalement désorientée.
Avant.
Ouais, elle est repartie avant. Bah, on ne sait pas, mais oui, on pense du coup qu'elle est partie avant, quoi.
Il y a eu un enfant, les deux filles, la mère, et
ouais,
après
et
lui,
le père.
Tant pis, il s'est fait retrouver.
Ouais, voilà. Donc, je vais vous raconter une dernière petite histoire. Donc, c'est un mélange entre. En fait, ça va être un mélange entre une affaire criminelle et un peu une légende urbaine. C'est un peu compliqué.
On t'écoute.
Donc, c'est le masque de pluie. Donc, à l'automne 1997, la Louisiane était frappée par des pluies torrentielles. Les routes se transformaient en rivières, les champs en marécages et les forêts en labyrinthes d'ombre et de brume. C'est dans ce décor apocalyptique qu'un mal invisible se glisse entre les gouttes. Les premières disparitions furent discrètes, presque noyées dans la violence naturelle de la saison. Un mécanicien solitaire, un pêcheur sans abri, une institutrice de campagne, tous retrouvés sans vie, abandonnés dans les lieux isolés, leur corps marqué par la strangulation ou l'asphyxie. Donc, en fait, c'était vraiment que des victimes qui étaient, enfin, que personne n'allait trop rechercher, quoi.
Oui,
genre un pêcheur sans abri, un mécanicien solitaire, c'est un peu, vous voyez quoi.
Personne ne se rend compte qui.
Ouais, c'est ça.
C'est horrible.
Mais du coup, ce qui les relie, c'était pas seulement la mort, mais la pluie. Chaque victime mourut lors d'un orage d'une rare violence. Les témoins y parlaient d'un homme vêtu d'un imperméable jaune, une silhouette fantomatique surgissant dans les éclairs, puis disparaissant dans la nuit. Certains juraient l'avoir vu rôder près des scènes de crime comme une ombre insaisissable.
C'est horrible, ça me fait trop penser à des films d'horreur. Et
j'ai entendu imperméable
jaune
sous la pluie. Et voilà.
J'ai pensé à ça, genre le film d'horreur. Vraiment. Ouais.
Le FBI, du coup, il entre en scène, il dresse des profils, interroge les habitants, mais plus il cherche, plus l'affaire se noie dans l'incertitude. Aucune preuve tangible, aucun suspect, juste cette pluie, constante, presque complice. En 2001, après des années d'enquête, le dossier fut clos, classé, officiellement non résolu. Mais certains, encore aujourd'hui, jurent avoir vu ce manteau jaune surgir au bord des routes lors des tempêtes. Ils disent que le masque de pluie n'a jamais cessé de rôder. Donc en fait, c'est on sait pas ce qui s'est passé à ces pauvres personnes qui sont mortes. Et du coup, en fait, c'est un peu l'imperméable jaune, c'est un peu comme une légende urbaine. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent l'avoir vu, mais comme on l'a jamais attrapé ni rien, bah, on n'a pas de certitude. Quoi.
En fait, c'est juste n'importe qui, finalement.
La seule preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont morts.
Ouais, c'est ça. Et les jours de pluie, quoi.
C'est tout. Ah, c'est trop étrange comme histoire.
Mais c'est vrai.
J'avoue que c'est étrange. Ça aurait pu faire... Je pense qu'ils pourraient reprendre cette histoire pour faire un,
pour faire un film d'horreur.
Si ça n'a pas déjà été fait.
C'est un peu déjà vu, je pense.
Ouais.
Apparition comme ça, après un mort.
Ouais. Après, c'était en 97, donc ça se trouve, il y a des trucs qui ont influencé et on ne sait pas. Peut-être des films qui ont été influencés par cette histoire-là et on ne sait pas du coup.
C'est sûr, ça part toujours de là. Merci beaucoup, Tess. On passe ensuite, après la musique, on passera au quiz d'Antonin et nous passons Don't Be Cool d'Elvis Presley. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
RCN.
RCN.
L'âge bête.
Il est 14h13 sur RCN Radio. Vous écoutez toujours l'âge bête. Et nous passons au quiz d'Antonin. C'est à toi.
Bonjour, alors bon, la dernière fois, j'avoue, je m'excuse un peu, le quiz était un peu catastrophique.
Je m'en rappelle très bien.
Oh non, non. On était même venu à faire du 42 plus 42.
Oh, vraiment, il était à court des questions. Il mais nous non, mais sort c'est parce un 42 fait, plus 42. Voilà.
C'est parce que je les avais fait sur la table de nuit le soir, puis je les avais oubliés sur la table de nuit, du coup. Et donc, j'ai dû les faire en extérieur, pas dans mon élément.
Ça arrive,
bref,
t'inquiète.
Voilà. Donc il y avait des questions normales.
C'est pas grave, on espère que tu te rattrapes.
Horribles. Mais là, ça va, normalement. Et en plus, il y a Margot, j'ai bon espoir. Je vous mets pas du tout à l'écart. Alors, du coup, quelle est la couleur d'un passeport français?
Parce que c'est vrai rouge, bordeaux. Rouge, bordeaux, ouais.
Rouge, bordeaux.
Ouais, non.
C'est bien ça. Ouais. Vous savez que j'aurais fait l'erreur.
Ah ouais, t'aurais dit quoi?
Bleu marine.
Oui.
Ah ouais?
Oui.
Mais je sais pas pourquoi.
C'est l'autre, c'est un autre pays.
C'est que j'ai pas de passeport, mais en fait, tout le monde en a tellement tout le temps que...
Ah, t'as même pas... Ah, oui.
T'as pas de passeport?
Non, j'ai pas de passeport. Je voyage pas, donc j'ai pas encore la nécessité d'avoir un passeport.
Est-ce que vous connaissez le roman Les Liaisons Dangereuses?
Oui. Oui.
Ok. Oui. Alors, quel en est l'auteur?
C'est Stendhal, non? Non, non, j'ai plus...
Je peux vous donner non.
Donne des propositions.
Alors, il y a Beaumarchais.
Non.
Non.
Pierre Chaderlos de Laclos.
C'est qui ça?
Denis Diderot, Honoré de Balzac.
Ah, c'est pas Balzac, les Liaisons Dangereuses?
Non, j'aurais dit Laclos, le deuxième. Laclos,
moi, je sais pas, je l'ai pas lu.
Pierre Chaderlos.
Je l'ai pas lu, mais je sais
moi,
que j'en
je l'ai pas lu, mais on l'a utilisé l'année dernière, en français.
Moi, j'ai dit Balzac et elle a dit Laclos.
Et bah, c'est le deuxième, alors c'est pas le plot, hein. C'est Pierre Chaderlos de Laclos.
De la
je ne connaissais pas. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un peu un roman assez spécial en fait, qui parle vraiment des lettres. Enfin, qui, en fait, qui, où les personnages communiquent avec des lettres. C'est un peu spécial, mais il est quand même pas mal et beaucoup apprécié par beaucoup de gens. Suivant, quel est le nom donné à la culture des champignons pour le commerce? Alors, je pense pas que vous voulez...
Je crois que je l'ai déjà entendu. T'as des propositions ou pas?
Évidemment. Sériculture, conchiliculture, fongiculture, hélicoculture.
Fongiculture. Hélicoculture. Fongi, ça veut dire champignon. Ah ouais, c'est pas assez, ouais. Bah, les, comme les fongicides pour éliminer les mauvais champignons, les mauvaises herbes.
Okay. Et bah, c'est bien vu. J'avoue que tous ces termes, c'est un peu... ça entraîne l'articulation. Voilà, c'est comme inéligibilité.
Redis-le une fois pour voir.
Inéligibilité.
Ouais, c'est bien.
Ouais, bravo. Je me suis entraîné dur. Alors maintenant, passons à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quel est son style? Alors son style, donc entre c'est moderne, ça... roman, baroque ou gothique.
Gothique, non? Je sais pas. Non. Gothique ou j'aurais baroque, gothique mais je aussi. Sais pas.
Moi, je vous fais confiance, hein, je m'y connais pas du tout en architecture. Hein.
C'est bien ça, c'est gothique.
Alors. Ouais, bien joué les filles.
Quel objet peut-on régulièrement trouver sur la tombe de Serge Gainsbourg? Alors, bon, je vais vous mettre des propositions, ça n'a pas l'air de cogiter.
Ça nous en sort pas de fou.
Des capuchons de silo, bon là j'avoue c'est un peu spécial. Des tickets de métro, des boîtes d'allumettes et des papiers de bonbons.
Ah, moi j'aurais pensé c'était à un instrument.
C'était quoi la première?
Des capuchons de stylo.
Et ça tombe à Paris?
Alors, il y a des raisons, hein, ça vient évidemment d'une de ses chansons.
Bah, j'aurais dit soit les allumettes, soit les bonbons, mais je sais pas.
Moi j'aurais dit les tickets du métro.
Ah,
je sais pas, genre, à chaque visite, quelqu'un pose un ticket de métro.
Ouais, je vois.
Alors,
ouais.
Du coup,
c'est
bien.
C'est peut-être plus symbolique les métros.
Ouais. C'est ça, ouais. Alors c'est le ticket de métro. Mais c'est en fait sans référence à sa chanson Les Poinçonneurs des Lilas. Donc les Lilas, c'est une gare de métro. Donc ça se passe dans le métro. Il prend le rôle d'un poinçonneur donc au Lila. Et donc c'est là où ses fans vont du coup déposer des tickets de métro. En son honneur.
Ah, c'est ultra sympa comme anecdote. En vrai.
Ouais, de ouf.
Vraiment, à chaque visite, cool. Tu déposes un ticket de métro avec l'heure d'arrivée.
Question suivante. Quelle est la caractéristique d'un motif Vichy?
Vichy?
Oui, ouais. En fait, on appelle un motif Vichy. Oui. Vous connaissez pas?
Je connais si le traité de Vichy. Terrible.
Alors, c'est soit du coup qu'il est à rayures, qu'il est à poids, qu'il est à carreaux ou à motif floral.
Ah, c'est un motif Vichy. J'avais pas compris la question.
Oui,
en fait.
Oui,
ouais, j'aurais dit rayures aussi. J'aurais dit rayures ou poids, mais ouais, ça peut-être plus rayures.
C'est pas des noms de bonbons aussi?
Oui, ouais, oui c'est le truc à la menthe là, un peu dur.
Je qu'on retrouve tout dans les petites boîtes. La boîte à couture de mamie.
Tu peux redire les propositions? Il y avait losange dedans?
Non.
Il y avait floral, à rayures, à poids et à carreaux.
Moi, je dirais sur rayures.
Ouais, peut-être à moi carreaux. Aussi. Rayures sur ou rayures. Poids, mais...
Et bah, c'est à carreaux.
Ah bah allez,
ouais,
vous voyez,
j'étais vraiment genre sûre, genre même avant qu'ils mettent les propositions, j'étais là, rayure. Bah non, tant pis.
C'est à cause de ta chemise, je pense.
Oui,
voilà.
Une jolie chemise à rayure aujourd'hui.
Elle s'est influencée elle-même. Maintenant, j'espère que vous y connaissez, parce que moi non.
Ah bah
pourtant,
super.
Je fais la question. Dans quelle série télévisée l'ascenseur est-il presque constamment en panne? Alors déjà, si vous dites quelque chose...
Oh, il y a une série où
Friends. Mais il n'y a pas d'ascenseur dans Friends?
Il y a un ascenseur.
T'as ah oui, il n'y a peut-être pas d'ascenseur parce qu'il est en panne, mais... En cas où ils prennent l'escalier, quoi. En tout cas, ils ne prennent pas l'ascenseur.
Oui.
C'est peut-être pas bête. Donc, est-ce que c'est, vrai, c'est ça ou c'est pas ça?
Non, ah non c'est pas ça. Ah, pourtant, bah, ça élimine du coup alors. Une des propositions.
Ah,
que j'avais mis Friends, mais c'est évidemment pas ça. Alors, évidemment, c'est pas évidemment, mais bon. The Big Bang Theory.
C'est ça.
Sex and the City. Oh, I Met Your Mother.
Ah, je connais aucune des trois séries là. Alors,
bah, je connais les trois, mais.
Mais elle avait l'air de dire que c'était Big Bang Theory.
Je connais Friends, The Big Bang Theory.
Je connais How I Met Your Mother, mais je sais pas.
Je sais pas.
Mais j'aurais dit peut-être The Big Bang Theory aussi. Ouais,
mais... Et bah, c'est le Big Bang Theory. Ah, The Big Bang Theory. Parce que, en gros, ça raconte un peu le quotidien de geeks et de leurs voisines de palier. Donc, monter l'escalier, c'est un peu leur seule activité physique. De la série.
C'est un peu marrant quand même.
Oui, voilà. Puis donc, c'est une petite anecdote. Alors, pour vous donner une idée, 12 saisons et 279 épisodes.
Ah oui, ça fait beaucoup d'épisodes.
Effectivement.
Beaucoup
c'est saisons. Un peu énorme. Je sais pas où est-ce qu'on en est avec Friends, mais c'est plus.
Après,
non, Friends, c'est 10 saisons.
Des
ouais.
épisodes avec plein d'épisodes, moi, j'apprécie un peu. Genre,
ouais,
quand
non,
t'as rien
aussi.
À faire,
ouais, non,
tu regardes un épisode.
Surtout quand ça dure 20 minutes et tout. C'est ça.
Moi, pas du tout.
Margot est là.
Non. Bon, bah, on fera un débat, on lancera un débat plus tard, ok. En attendant, ma chronique est terminée.
Ok, super, merci Antoine.
C'était bon. Bah, merci beaucoup, franchement. Tu t'es amélioré.
Oui.
Là, j'ai aimé. J'imagine. C'était pas mal.
20 sur 20, Antonin.
Ouais.
Merci beaucoup. Ensuite, on passera à Margot après la musique de Mamamoo, égotistique.
Il est 14h24 sur RCN Radio. Alors, toute l'équipe est en fou rire parce que nous avons eu un petit peu de retard. Mais on se rattrape. Margot.
Oui, je suis là. C'est bien moi.
Tu peux nous parler de ce que tu nous sers aujourd'hui?
Alors, de la ratatouille, ça vous va?
Oui.
À tous. Ok, ça super. Alors, on va parler des plats dans les films. Entre guillemets, à peu près. Donc là, par exemple, on va commencer par ratatouille. La ratatouille dans Ratatouille, le petit rat qui cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez tous.
J'espère en tout cas. Oui, vraiment.
C'est un vrai classique.
Et c'est aussi un classique de la cuisine paysanne provençale. Aubergines, courgettes, poivrons, tomates, oignons...
Un retour à l'enfance, quoi, en fait.
Exactement. Et c'est le but du film. Dans le film, en fait, ce n'est pas une ratatouille grossièrement jetée dans une casserole. Non, c'est une version raffinée et presque dessinée, imaginée par le chef Thomas Keller. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, bref. Non, mais ça, je ne suis pas sûre que les noms reviennent à tout le monde. Mais dans ce film, ce plat devient un pont entre tradition et modernité parce que le critique Anton Ego, il s'appelait Rigide et Cassant, je sais pas si vous vous souvenez un peu de son image dans le film,
oui.
Mais il fond devant la bouchée et se revoit enfant. Et en fait, c'est vraiment ça, la ratatouille ici n'est pas juste bonne, elle répare quelque chose et elle redonne à l'humain l'essentiel du souvenir d'enfance, un peu comme la Madeleine de Proust, voilà. Ouais. Niveau bouché.
C'est carrément ça.
C'était un peu le message du plat dans Ratatouille en soi, de la scène là en tout cas. Voilà, ensuite, passons à La Belle et le Clochard. Je sais pas si vous voyez la scène.
Avec les spaghettis.
Exactement. Donc, c'est les spaghettis aux boulettes. Donc, c'est un plat typique italien-américain, un mix des deux. Et les spaghettis longues, une bonne sauce tomate mijotée, les boulettes de viande et tout. Un vrai petit classique, devenu un icône mondial, hein, pour pas se mentir. Et dans le film, ce plat est servi dans une ruelle derrière un restaurant à la lumière d'une lanterne. Et deux chiens y partagent un dîner sans le vouloir. Oups, un baiser. Et,
c'était des chiens.
C'est ça. Et,
tu savais pas ?
La Belle et le Clochard.
Antoine.
Ouais. Et ce n'est pas un plat romantique au départ, mais c'est un petit plat de grand-mère des quartiers populaires. Mais en fait, Disney le transforme en un moment tendre et passionnant, voilà, ouais. Dans une assiette simple, chaude, partagée et qui fait naître l'amour. Voilà, et depuis, les spaghettis boulettes sont devenus un plat romantique par l'excellence, malgré leur sauce qui tache un peu tout. J'en ai vécu.
Ne mettez pas de chemise blanche.
Ouais. Exactement. ensuite, je sais pas si vous connaissez trop Harry Potter et la coupe de feu. Voilà.
Oui.
Mais dans celui-ci,
oui.
En particulier, je ne sais plus c'est le combien.
Quatrième, c'est Azkaban. Non, c'est le troisième.
C'est le troisième Azkaban, non ?
Ok.
Next.
Ouais, quatrième,
cinquième.
J'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais la tourte à la viande. La tourte à la viande. Je sais pas c'est
dans... À quel moment ?
Dans Harry Potter. Harry Potter et la coupe de feu.
La tourte à la viande.
Voilà.
Antonin. Évident. Je rigole. Je connais pas non plus.
Harry Potter, tourte à la viande. Je
oh là 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 là. Avec la bonne croûte dorée, le cœur chaud de bœuf, les oignons et la sauce épaisse. Comment tu peux ne pas te souvenir ? En Angleterre, c'est un plat de pub, de campagne, voilà, un peu familial, nourrissant. Voilà, voilà. Mais dans Harry Potter, la nourriture joue toujours un rôle réconfortant. Dans le grand hall qui s'illumine, et des bords de plats, tout
les
ça.
Les plats qui s'envolent.
C'est ça. C'est vraiment un monde qui semble sorti de rêve. Et la tourte dans ce film, elle est sortie lors d'un dîner d'automne entre deux épreuves de tournoi des trois sorciers. C'est un instant de pause, de chaleur et de normalité dans un univers qui devient de plus en plus dangereux dans le fil du film, en gros. Et ce plat est ancré dans la réalité, rappelle le foyer qui tient parfois à une bouchée bien chaude des petites tourtes. Voilà, voilou.
Miam.
Ensuite, Bob l'éponge. Le burger
oui.
De Krabby Patty.
On voilà, connaît.
Voilà. En gros, c'est un burger classique. Deux pains briochés, un bon steak juteux, les légumes frais. Qu'est-ce qu'il y a, Antonin ?
Une description d'un burger. C'est pas, quoi.
Avec une bonne fameuse sauce secrète, attention. Mais dans Bob l'éponge, ce plat devient l'obsession de toute la ville. Bob l'éponge la prépare avec un amour infini.
Et il mange que ça.
Que ça.
Que ça.
Exactement. Et au Krusty Krab, il symbolise un travail bien fait. Monsieur Krabs en fait une machine à profit. Il veut l'argent, lui. Bref, tandis que Plankton rêve de voler la recette pour conquérir le monde entier. Bref, ce meilleur n'est pas un simple plat, excusez-moi. Il est l'incarnation de l'effort, de la réussite partagée, etc. Et de l'obsession pour la perfection. On veut tous reproduire la recette idéale, etc. Et c'est un plat simple qui, pourtant, peut changer beaucoup de choses. Est-ce qu'on a encore le temps pour une petite dernière? Non, alors c'est parti, j'ai fini pour aujourd'hui.
Mais on finit avec un bon burger.
Ah ça vaut tout l'or du monde.
Bon bah voilà, on a bien faim.
Merci beaucoup, c'est vrai que nous on enregistre vers midi et vous nous écoutez vers 14h et là on a faim.
On a faim.
Et bah c'était une belle émission. Merci à vous l'équipe, vous étiez fantastiques et nous nous retrouvons le mercredi prochain avec une toute nouvelle équipe. Enfin on échange quoi avec
exactement.
Où j'animerai également. Bah merci beaucoup et passez une bonne après-midi.
Merci.
Bonne après-midi.